Le journal Adia Chipoukou. Au sommaire de cette édition, la loi électorale devra être adoptée ce lundi. Les députés et sénateurs ont été convoqués en séance plénière. Dans ce journal, le point de vue du rapporteur du Sénat sur les préalables qui ont entouré l'adoption de cette constitution, notamment la promulgation de la constitution de la Troisième République. Peut-être une résolution définitive des conflits ethniques en Ituri. Les différents groupes ethniques de ce district se sont engagés à cohabiter pacifiquement dans un acte qu'ils ont signé hier dimanche. Un camion remorque bourré de poutrelles volées de l'Onatra a été saisi depuis mardi dernier à Limété, une commune de Kinshasa. Le président de la commission éthique et lutte contre la corruption est d'ailleurs sur place à Limété. Nous retrouverons tout à l'heure notre reporter René Capita. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est en principe aujourd'hui que les députés et sénateurs vont adopter la loi électorale. Une séance plénière est prévue ce lundi au Palais du Peuple. Selon le rapporteur du Sénat, l'adoption de la loi électorale est une mesure d'application de la Constitution après sa promulgation samedi par le chef de l'État. Quant à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, Lambert Mende souligne qu'elle ne donne lieu à aucun vide juridique puisque toutes les institutions de la transition vont demeurer en place jusqu'à l'élection des nouveaux animateurs qui en prendront le relais dans leurs installations. La mère Mende au Malanga, j'ai un téléphone par Alain Irung.
Il est dit dans cet article 222 de la Constitution qui vient d'entrer en vigueur que les institutions de la transition demeurent en place jusqu'à l'installation des institutions correspondantes issues des élections et fonctionnent conformément à la Constitution de la transition. C'est ça que la nouvelle Constitution dit. Donc il n'y a pas de vide juridique. Toutes les institutions vont continuer à fonctionner jusqu'à ce que, après que le peuple ait élu ses nouveaux représentants, ses nouveaux animateurs d'institutions, ceux-ci prennent le relais dès qu'ils sont installés. Donc on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de vide à la tête de l'État. Il ne faudrait pas que les ennemis de la démocratie en tirent prétexte pour distribuer la terreur dans l'esprit des gens. Les institutions sont en place, les principes qui sont édictés dans cette nouvelle constitution régissent désormais la République, mais les autorités doivent être désignées, et tant qu'elles ne le sont pas, celles de la transition continuent à gérer le pays.
Son de cloche différent à Mbujimayi au siège de l'UDPS, la fédération de l'UDPS Kasaï Oriental estime pour sa part que la promulgation de cette constitution crée une certaine ambiguïté dans les esprits des Congolais. Son président fédéral Pierre Nsana, il a été joint au téléphone par Julien Nyamweni.
La constitution qu'on vient de promulguer renferme une certaine ambiguïté. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas, à un moment donné, faire avaliser deux constitutions à la fois, c'est-à-dire deux lois fondamentales à la fois. Celle qu'on venait de promulguer, et là, elle est entrée en vigueur à la date de sa signature, donc à la date de sa promulgation, pendant que celle qui est en train de régir la transition demeure. C'est une confusion délibérément entretenu. Nous nous disons à l'UDPS que tout ceci c'est pour faire bonne mine à l'extérieur. Et nous disons qu'il y a deux discours, un discours pour plaire à l'extérieur. En réalité, ni le président, ni ses probateurs, personne ne croit à l'organisation des élections avant la date du 30 juin.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture dès ce lundi à Bangui, capitale de la République centrafricaine, de la troisième réunion interministérielle des pays des Grands Lacs. Après Nairobi et Luanda, au mois de septembre dernier, les organisateurs de cette réunion affirment que la rencontre de Bangui est la dernière avant le sommet des chefs d'État des Grands Lacs prévu vers la fin de l'année à Nairobi, au Kenya. Cette conférence internationale des Grands Lacs a déjà conçu plusieurs projets dans le secteur de la paix, la sécurité, le développement économique, la bonne gouvernance et le règlement des questions humanitaires dans cette région. La rencontre de ce lundi est déterminante pour la concrétisation de ces différents projets, souligne le coordonnateur du comité national de la RDC, Amouli Kabaruza. Direction Ituri, les différents groupes ethniques de ce district sont décidés à cohabiter pacifiquement. Ils ont signé hier dimanche à Bounia un acte d'engagement pour la paix et l'entente mutuelle entre eux. Cet acte a pour objectif de rapprocher les groupes tribaux et ethniques de l'Ituri, jadis protagonistes, notamment les communautés Emma et Lindou de la localité de Boga, un endroit qui, à l'heure actuelle, connaît d'insécurité liée aux miliciens FRPI. Le point avec Isaac Remoyope.
L'atelier organisé au centre Agapé de Bougna a abouti à plusieurs résolutions, notamment la création des structures de transformation des conflits, les renforcements des capacités des animateurs de ces structures, l'intensification de la campagne de sensibilisation à la paix et à la cohabitation interethnique. Cependant, certaines localités restent inaccessibles à cause de l'insécurité pour l'application de ces mesures. En fait, ce séminaire lui-même aurait dû avoir lieu à Boga, à 120 km aussi de Bougna, mais à cause des miliciens opérant dans cette localité, l'organisation à cet endroit n'était pas possible. Écoutons la réaction du chef des collectivités de Walendu Bindi.
Si la sécurité sera bien instaurée dans ma collectivité, je crois que ça doit quand même donner un résultat bien bénéfique. Mais ce dernier état, il n'y en a pas. Parce que nous attendons surtout le démantèlement des milices dans cet endroit-là.
Face à cette préoccupation, le commissaire de district de l'Ituri donne sa réaction.
Ce que le gouvernement est en train de faire, le déploiement de l'armée, c'est une grande avancée dans la pacification. Pendant que l'armée s'est déjà installée, c'est alors maintenant que les gens doivent rester ensemble. Nous devons passer les différentes communautés pour justement parler aux gens, pour que les gens se réconcilient.
Tous les participants à ce séminaire ont pris l'engagement de faire aboutir les résolutions adoptées à l'issue de ces assises pour une paix durable dans le district de l'Ituri. Notons afin que cette initiative est du ministère Ebenezer, une association sans but lucratif œuvrant dans toute la partie est de la RDC. Bougna, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Situation tendue ce week-end dans certaines localités du territoire de Rutshuru, c'est dans le nord Kivu. Des attaques contre un village et une position des FRDC ont entraîné la mort d'un militaire et le pillage de plusieurs biens des habitants, notamment dans le secteur de Kanyandoyi et de Vichumbi. Le point avec Charles Ntirisha.
Une localité située à plus ou moins 110 km de Goma, une position des forces navales a été attaquée hier dimanche vers 23h. Selon des sources civiles et policières, un militaire de cette position a été tué, un civil a été blessé. Les domiciles de plusieurs paysans ont été pillés, une quinzaine de téléphones a été emportée. L'identité des assaillants n'est pas encore connue, mais des sources des organisations de droits de l'homme de Vichumbi parle d'hommes en tenue militaire avec mention FAC, autrement dit, l'ancienne tenue militaire des forces armées congolaises. Toujours dans le territoire de Rutshuru, un autre village, celui de Kinyandoni, à 9 km de la cité de Kiwanja sur la route Rutshuru-Ishasha, a été attaqué, cette fois dans la nuit de samedi à dimanche. La police nationale congolaise de Kiwanja parle d'une vingtaine de maisons pillées. Les assaillants ont aussi volé des médicaments dans le centre de santé du village. La police de Kiwanja pointe du doigt des combattants hutu-rwandais. Selon elle, ce regain d'insécurité serait le fruit du départ de plusieurs militaires de la 5e brigade intégrée qui quittent en ce moment le territoire de Rutshuru pour le Kasaï occidental, son nouveau lieu d'affectation. Autre raison, la lenteur observée dans le déploiement des unités de la 2e brigade intégrée venue de Kinshasa pour les remplacer. Charles Ndurgisha, Goma, Radio Okapi.
Dans la province de l'Équateur, c'est la recrudescence de braconnage dans le parc de la Salonga, situé dans le territoire de Monkoto. Des éléphants sont abattus chaque jour avec des armes et munitions de guerre. Sont pointés du doigt des braconniers et les populations vivant aux alentours, notamment sur l'axe Lokoro, dans le secteur de Bianga. Des précisions avec le chef du secteur nord du parc national de la Salonga, Mafuta Ngamankosi, est au micro de Ghislaine Nentobo.
Depuis 2003, nous sommes en dialogue avec la population de Bianga. Mais on constate certaines résistances dues à certaines personnes qui proviennent des grands centres urbains, par exemple Mbandaka, Kinshasa et Bouende. Ces gens-là amènent des produits de première nécessité, du sel, du savon, qu'ils distribuent aux villageois. Et les villageois les aident, les accompagnent dans la forêt pour abattre. Les hommes en uniforme aussi. Comment se fait-il que les gardes sont démunis des armes et des munitions, mais on constate par exemple les braconniers qui ont des bidons de munitions et des armes de guerre modernes. Pourtant, dans les camps, il y a un magasin d'armement. Où obtiennent-ils ces armes?
Signalons que le parc de la Salonga, reconnu par l'UNESCO comme patrimoine universel de la conservation de la nature, est célèbre par les éléphants, les crocodiles et les perroquets gris qui l'abritent. Revenons dans la capitale où un camion remorque bourré de poutrelles volées de l'Onatra a été saisi depuis mardi dernier à Limité, une commune de Kinshasa. Ce matériel est utilisé par l'Office national de transport pour réparer les ponts-rails ou certaines infrastructures portuaires. Badou Abadou, président de la commission d'éthique et lutte contre la corruption, est sur place à Limité où nous rejoignons notre reporter René Capita.
De 22 poutrelles de 12 mètres de longueur, pesant chacune environ 1 tonne 650 kg, chargées sur une remorque appartenant à la société Meli Congo. Selon l'inspecteur général de la police de l'ONATRA, le général Henri Ndongala Mtumpa, ces poutrelles ont été achetées depuis 1976 pour la réparation du port de Matadi et des ponts jetés le long du rail. L'inspecteur général de l'ONATRA a par ailleurs signifié que ces poutrelles sont vendues sur ordre de l'administrateur délégué général adjoint de l'ONATRA à environ 270 $ la pièce à la société Meli Congo dont le propriétaire est son beau-frère. Le général Ndongala a enfin signifié que les poutrelles vendues se trouverait actuellement dans les installations de la régie des eaux à Kinshasa, Kisuka, Pompage, où la délégation de la commission éthique et lutte contre la corruption se rend actuellement pour faire l'état des lieux. Depuis le dépôt de l'ONATRA à Limité, Sokopao, René Capita, Radio Capita.
Dans le cahier sanitaire, notez d'abord cette inquiétude des autorités sanitaires de Bena-Tchadi au Kasaï occidental. Ils redoutent la recrudescence de plusieurs maladies. Selon eux, les enfants de la zone de santé de Bena-Tchadi dans le territoire de Dimbelenge ne reçoivent pas de vaccin depuis le désengagement des médecins du monde de cette zone il y a de cela quelques mois. Pour pallier rapidement à ce manque d'appui, ces autorités ont fait un recours auprès de l'inspection médicale provinciale à Kananga. Précision du docteur André Kalamouloumé Mukendi, médecin chef de la zone de santé de Bena-Tchadi. Il est joint au téléphone par André Kambala.
L'appui technique, logistique est très nécessaire pour la prise en charge des malades et surtout des maladies évitables par la vaccination. Ce sont des choses que nous manquons et il y a tous ces risques-là. Donc la population sensible, c'est celle des 0 à 5 ans qui est très très disposée à des maladies qu'on peut évité par la vaccination.
Avec le départ de Médecins du Monde, vous allez penser vous rallier à quel autre ONG qui va vous supporter?
Nous passons par l'inspection provinciale médicale qui doit nous brancher. En tout cas, c'est un recours que nous sommes en train de faire à tout moment parce que sinon ça ne va pas. Donc nous devons passer administrativement par l'inspection provinciale de la santé.
Au Sud-Kivu, par contre, 7 enfants sont morts de la rougeole ces 2 dernières semaines dans la commune de Kougouloubé, commune reculée du territoire de Chabunda. Les autorités locales craignent une épidémie de rougeole dans une zone où très peu d'enfants sont vaccinés. L'inaccessibilité et l'insécurité dans cette zone empêchent les autorités sanitaires d'accéder dans ces communes. Et puis, une 50aine de vélos appartenant à des Congolais ont été confisqués par la police zambienne. C'était dans la nuit du samedi à dimanche dernier. Les propriétaires de ces vélos tentaient de faire passer frauduleusement et nuitamment de la farine de froment de la Zambie vers la République démocratique du Congo. Cette pratique appelée bilanga crée des parts et d'autres des manques à gagner. Paul Kabou.
Ces vélos appartiennent à ce qu'on appelle à Kasumbalesa les vélomanes. Contrairement aux Katako qui transportent de la marchandise à Dodome, les vélomanes, eux, utilisent le vélo pour le même service. Ils se rendent nuitamment de l'autre côté de la frontière pour faire passer frauduleusement de la marchandise. Habituellement, les policiers de deux côtés ferment les yeux après avoir reçu un pourboire, occasionnant ainsi un manque à gagner pour le trésor public. Comme à l'accoutumée, ce samedi soir, ces vélomanes se sont rendus du côté zambien. Une cargaison de farine de froment les attendait. Seulement, le détachement de la police zambienne avait été changé quelques heures auparavant. Les policiers ont attendu que les vélomanes chargent leurs marchandises sur les vélos. Ainsi chargés, les vélos deviennent plus lents. À l'arrivée de la police, les vélomanes avaient d'autre choix que d'abandonner leur cargaison et leur vélo et de fuir à toutes jambes. Selon le bureau du chef de cité de Kasumbalesa, de tels incidents sont fréquents. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Voilà, c'est donc par Lubumbashi que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Léonard Moulamba et Martin Sebujangwe qui en ont assuré la coordination. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Okapi. Okapi.